Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous dans Décryptage. Ce soir, les journalistes sont-ils délibérément pris pour cible à Gaza ? La question fait toujours froid dans le dos, comme les chiffres. Environ 170 journalistes ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Une hécatombe sans précédent, selon Reporters sans frontières, et qui a motivé une nouvelle enquête de Forbidden Story dans le cadre du Gaza Project, le projet Gaza, qui avait déjà révélé l'an passé que certains journalistes avaient été pris pour cible par l'armée israélienne. Sous la houlette de Forbidden Stories, un consortium de 12 médias internationaux, dont RFI, ont donc de nouveau enquêté sur ces journalistes tués ou blessés dans l'exercice de leur métier, et notamment ceux qui utilisent des drones pour documenter la guerre à Gaza. Des témoignages durs et édifiants et qui engagent la responsabilité de l'armée israélienne. Pour en parler ce soir avec nous sur RFI, Laurent Richard, le directeur de Forbidden Stories. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci de nous rejoindre sur la radio mondiale. Également à mes côtés, les deux grands reporters de RFI qui ont collaboré à cette enquête. Nicolas Falaise, du service international de RFI. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Et en ligne, avec nous depuis Jérusalem, notre envoyé spécial permanent, Samy Bourlifa. Bonsoir Samy.
Bonsoir à tous.
Et pour commencer, Laurent Richard, pourquoi avoir relancé ce projet Gaza ?
C'était important de le faire, de ne pas laisser tomber. C'est une guerre qui est en cours depuis le 7 octobre 2023. Et 170 journalistes parmi des dizaines de milliers de civils ont péri. Ces journalistes étaient là pour raconter la guerre, et sans journalistes dans une guerre, on peut s'attendre au pire. Les journalistes sont là pour témoigner de ce qui se passe. Et dans cette bande de Gaza, qui est interdite d'accès aux autres journalistes, les crimes de guerre pourraient se multiplier s'il n'y avait pas le témoignage des journalistes. Donc c'était important que l'on forme à nouveau ce consortium et que l'on travaille avec RFI, puis 11 autres médias internationaux pour enquêter sur le ciblage de ces journalistes et poursuivre leur enquête.
Il fallait un projet Gaza 2, alors que la première enquête n'a absolument pas mis fin au ciblage des journalistes.
Non, alors les enquêtes journalistiques ne mettent pas fin à toutes les guerres. Mais oui, c'est important de persévérer, c'est important aussi d'envoyer un signal de solidarité, de cohésion et d'enquêter, même si le terrain ne nous est pas rendu accessible, de le faire à distance au moyen de témoignages, au moyen d'analyses open source. On a réuni un ensemble de moyens et de talents pour y arriver et nous faisons quand même quelques révélations aujourd'hui.
Et vous démontrez à quel point les journalistes palestiniens à Gaza travaillent dans des conditions effroyables, à très grand risque, notamment ceux qui utilisent des drones pour montrer l'ampleur des destructions.
Oui, les drones sont utiles pour montrer la guerre telle qu'elle se passe, pour en montrer ses conséquences. 90% des logements, selon les Nations Unies, sont détruits. 95% des infrastructures hospitalières seraient endommagées. Donc les dégâts sont considérables et il faut pouvoir le montrer. Le drone est l'outil parfait pour ça quand il est utilisé par des journalistes. Or, ce qui se passe, c'est que l'armée israélienne tire sur le drone et sur son opérateur dès l'instant où elle le voit. Il y a très peu de règles claires du côté de l'armée israélienne là-dessus. Et on a donc vu un certain nombre de journalistes dronistes, tels qu'on les appelle, décédés, être tués dans ces conditions-là.
Et vous avez donc cette conviction que ces journalistes dronistes palestiniens sont ciblés parce que l'armée israélienne ne veut pas montrer l'ampleur du désastre à Gaza ?
En tout cas, nous, on a mené une investigation qui repose sur des faits, des indices, et on est en mesure de dire pour certains cas qu'ils ont été délibérément ciblés. C'est-à-dire que certains d'entre eux pouvaient porter des gilets de presse, certains d'entre eux se trouvaient dans des zones qui n'étaient pas des zones où des combats devaient avoir lieu, qui n'étaient pas des zones dites d'évacuation signalées par l'armée israélienne. Certains d'entre eux étaient suivis par des drones quadcoptères qui peuvent tirer tirer des munitions sur eux. Et on sait aussi une chose, c'est qu'il y a une impunité, je pense qu'on en reparlera, qui est totale. Aucune enquête sérieuse n'est réellement menée par les autorités israéliennes suite à ces décès, à ces meurtres.
Alors, parmi les 40 journalistes qui ont travaillé à ce projet, Nicolas Falaise, en quoi a consisté votre travail ?
Alors, travailler en réseau dans le cadre d'un consortium comme celui de Forbidden Stories, c'est se retrouver au milieu d'un flux d'informations qui arrivent de toutes parts, hein, de la part des autres rédactions, ce qui signifie des moyens différents, des contacts différents, des langues différentes, des outils différents, puisqu'il y a une partie visuelle très importante dans cette enquête. Donc, chacun se retrouve face à une grande quantité à la fois d'informations, y compris des informations brutes, qui devront être suivies, hein, affinées, confirmées.
C'est ça le travail, hein, c'est de vérifier les infos brutes qui arrivent au consortium.
Il y a eu notamment un épisode qui est très très intéressant durant ce travail et qui doit nous montrer que notre travail est fait d'humilité, hein, c'est qu'on a suivi pendant plusieurs semaines le récit d'un groupe de journalistes palestiniens. L'un a été tué, l'une blessée dans un moment de tir dans la bande de Gaza. Et c'est l'enquête qui a permis de dire qu'il n'y avait justement pas de certitude qu'ils avaient été ciblés et qui nous a fait nous tourner vers d'autres cas. Donc, quelquefois, creuser, c'est arriver dans des impasses journalistiques, mais qui montrent que le travail a été fait, c'est-à-dire qu'on a pu vérifier et laisser de côté une piste qui n'allait pas dans le sens qu'on imaginait d'abord. Donc voilà, un travail très collectif, intense, très riche et dont le résultat est aujourd'hui disponible sur le site de Forbidden Stories et en partie sur le site de RFI.
Alors parmi justement les témoignages vérifiés de ces journalistes ciblés, il y a Fadi, un jeune Palestinien qui a été grièvement blessé en octobre dernier près du camp de réfugiés de Jabalia alors qu'il portait son gilet de presse. Et vous avez documenté son histoire, Sami Bourlifa. Et lui se dit persuadé d'avoir été victime, dit-il, d'assassinat ciblé.
Tout à fait. Écoutez, je vais vous partager cette dernière interview que je viens de réaliser il y a deux jours avec un représentant du syndicat des journalistes à Gaza et qui disait très justement... Dans d'autres conflits dans le monde, l'identification à travers le gilet siglé presse, à travers le casque, donc cette tenue de journaliste fait en sorte de vous identifier justement pour que vous soyez épargné quelque part. À Gaza, c'est le contraire qui se passe finalement. En fait, ce gilet siglé presse, cette tenue de journaliste est devenue un aimant à tir, à bombardement. C'est ce qui est arrivé à Fadi, à Al-Wahidi. On le voit dans une course effrénée. Il a lui-même documenté les derniers moments, juste avant qu'il ne soit blessé, grièvement blessé. Fadi a été atteint par une balle qui est rentrée dans son cou et donc qui a sectionné sa moelle épinière. Et aujourd'hui, il y a son témoignage à lui, évidemment, mais il y a aussi les témoignages de tous les collègues journalistes qui étaient autour de lui et qui ont pu attester de tirs. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on ignore si c'est un tir de snipers israéliens ou de quadcoptères israéliens. Les témoignages qu'on a vont plutôt vers la version du quadcoptère, donc ce drone piloté à distance et qui peut tirer des munitions. Ce drone a un bruit aussi très particulier, reconnaissable aujourd'hui par la plupart des journalistes qui travaillent sur le terrain à Gaza. Et donc c'est l'histoire de Fadi Al-Wahidi notamment qu'on a suivi et qu'on documente aujourd'hui. Donc c'est le premier volet de cette enquête qui paraît aujourd'hui.
Et vous révélez également que l'armée israélienne a refusé son transfert hors de Gaza dans un premier temps pour qu'il aille se faire soigner en Égypte. Un refus sécuritaire.
Le refus sécuritaire, si vous voulez, c'est vraiment l'argument imparable de l'armée israélienne lorsqu'ils apposent ce refus sécuritaire. on ne sait pas en fait ce qu'il y a derrière. Et puis finalement, il y a eu derrière aussi le travail d'organisation de défense de droits de l'homme, d'une organisation de défense de droits de l'homme israélienne, Gisha, qui a tout fait pour aider Fadi al-Wahidi pour sortir du territoire gazaoui. Donc, qui est sous blocus et qui est fermé hermétiquement par l'armée israélienne. Et puis finalement, la situation s'est débloquée après plus de 120 jours, alors qu'il était plongé dans le coma. Donc il a finalement pu sortir de la bande de Gaza durant la trêve donc, qui a débuté à Gaza durant le mois de janvier. Il a pu sortir, je crois, au mois de février, transféré dans un premier temps en Égypte où il a pu être soigné, et puis transféré finalement du Caire vers le Qatar pour recevoir peut-être des soins un peu plus importants. Lui n'a qu'une seule ambition, qu'un seul rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir remarcher un jour.
Laurent Richard, qu'est-ce qu'on sait du déploiement par l'armée israélienne de ces drones snipers, de ces quadcoptères qui sont capables visiblement, d'effectuer des tirs de précision? Qu'est-ce qu'on sait de leur déploiement réellement?
Alors on ne sait pas tout. On sait une chose, c'est un, il y a pas mal de témoignages, et on a pu le faire confirmer, de journalistes sur place qui entendent des drones et ensuite des tirs, et des tirs automatiques. Alors qu'un sniper va tirer de manière saccadée, ils ont entendu des tirs automatiques tirés depuis des points élevés. Et l'analyse médico-légale de l'impact balistique de la balle qui a traversé donc le corps de Fadi et qui aujourd'hui l'a paralysé des deux jambes prouve effectivement que le tir est venu d'en haut. La deuxième chose, c'est qu'on a essayé de savoir auprès de l'armée israélienne si l'armée israélienne utilisait des quadcoptères, c'est-à-dire des drones équipés d'armes qui peuvent être ensuite, qui peuvent donc du coup tirer des munitions. Elle a refusé de répondre à ça. Mais on sait qu'en 2017, il y a eu des essais de menés par l'armée israélienne sur ce type de drone sniper, comme on les appelle également, mais on n'en sait pas plus et on n'a aucune confirmation de ça. L'autre point qui est inquiétant, c'est l'absence de régulation et de réglementation et de règles claires là-dessus. Le consortium a interrogé des militaires israéliens, certains qui étaient au combat encore il y a peu, et qui établissaient que, en fait, sur la question de faut-il tirer oui ou non sur les drones, la réponse, elle est oui. Et quand on leur demande, mais si ces drones sont opérés par des journalistes ou des activistes, c'est-à-dire des gens qui ne participent pas activement au combat, que faites-vous? Et la réponse à ce moment-là, c'est de dire, il n'y a pas de réponse là-dessus, on tire parce qu'il n'y a pas de règles là-dessus. Donc l'absence de règles est un vrai sujet, parce qu'en l'absence de règles, du coup, par défaut, ils tirent. Et c'est un sujet qui inquiète aussi les autorités israéliennes, parce qu'on a vu par des documents internes et confidentiels qu'effectivement ils s'interrogent sur cette absence de réglementation là qui pourrait, et ces réflexes là qu'ils ont, qui pourraient les exposer à des poursuites.
Oui, parce qu'au regard du droit international, les lois de la guerre sont pas respectées. On n'a pas le droit de laisser une armée opérer sans des règles d'engagement très claires.
Le droit de la guerre, il est assez clair là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne tire pas sur les civils. Les journalistes sont des civils parmi d'autres. Et le droit de la guerre prévoit qu'on peut tirer sur quelqu'un qui participe activement à un combat et qui est armé. Le drone n'est pas une arme, en tout cas s'il n'est pas équipé d'une munition, et s'il s'agit juste de journalistes qui veulent filmer et montrer la destruction, il s'agit donc bien de journalisme. Donc oui, Israël pourrait être exposé à des poursuites suite à ces tirs-là et s'en préoccupe.
Et il répond de quelle manière? Parce qu'à chaque fois, c'est toujours le même dédouanement. On parle d'opération terroriste, voilà.
Alors oui,
à chaque fois qu'un journaliste est touché.
Il y a quelque chose que l'on observe depuis le début, c'est que quand un journaliste est tué par l'armée israélienne, très souvent, l'armée israélienne en publie un communiqué pour expliquer que ce journaliste était en réalité un terroriste. C'est arrivé sur le cas de Mustafa Touraya, qui utilisait également un drone. L'armée israélienne a donné quelques documents qui n'étaient pas très probants et qui n'ont pas établi l'affiliation du journaliste à un groupe terroriste. On a vu ce type de réflexe-là et de communication de l'armée israélienne se répéter souvent. Des accusations, très peu de preuves, très peu de documentation. Et puis c'est tout. Et puis la deuxième chose que l'on voit, c'est une tendance à discréditer et à pratiquer la désinformation en s'appuyant aussi sur des organisations qui distribuent et qui ensuite des informations fausses, virales, pour décrédibiliser les journalistes, faire croire qu'ils appartenaient au groupe terroriste Hamas et aussi décrédibiliser toute organisation qui irait dans ce sens-là.
Ça, ce sont des arguments qui ne tiendraient pas la route devant une Cour pénale internationale.
Oui, encore faut-il que la Cour pénale internationale puisse se saisir de ces dossiers. Sauf que le consortium révèle aussi dans ce projet Gaza, c'est que la Cour pénale internationale ne peut se saisir de dossiers que si ces crimes-là ne sont pas déjà poursuivis localement. Or, en réalité, depuis 2014, l'État d'Israël a créé un dispositif au sein de l'État, de l'État-major de l'armée, pour que des plaintes puissent être remontées et être déposées. Il y a eu plus de 664 plaintes déposées en 10 ans. 80% d'entre elles n'ont pas donné suite, n'ont eu aucune suite. Et seulement 0,17% d'entre elles ont donné lieu à des enquêtes ou à des sanctions. Et donc, quand il y a une enquête en cours qui est volontairement enlisée, la CPI ne peut plus intervenir. Et ça aussi, c'est apparemment, de ce que l'on entend, une des techniques utilisées par le gouvernement israélien en ce moment.
Nicolas Falaise, on le disait, ces attaques contre les dronistes particulièrement ciblées, ça a été le cas pour l'un des reporters de Forbidden Stories, Mahmoud Islem Albassos, qui a été tué.
Oui, alors prolongement très sombre de cette enquête. Le travail du consortium a été avec Forbidden Stories et les différents médias de recréer les images du terrain, des dévastations, des bombardements à Gaza, ces fameuses images que les dronistes palestiniens n'ont plus pu filmer eux-mêmes à un moment tant ils étaient menacés. Il y a quelques jours, au mois de mars, un droniste palestinien a pu filmer des images. Elles sont modélisées, visibles en 3D dans le cadre de cette enquête de ce Gaza Project. Quelques jours après le tournage, ce caméraman a été visé, il ne travaillait pas pour Forbidden Stories à ce moment-là, a été visé et tué par une frappe israélienne.
Une frappe israélienne qui a, je crois, tué 6 personnes, alors que ce même journaliste droniste filmait, je crois, l'arrivée d'un convoi humanitaire et était mandaté par une organisation humanitaire pour filmer ce moment-là. Donc on voit effectivement que ceux qui utilisent des drones s'exposent vraiment au pire.
Et renoncent d'ailleurs, pour beaucoup, oui, à faire voler leurs drones pour tourner.
De façon, c'est ce qu'on a entendu aussi au début de l'émission, c'est-à-dire que normalement, porter un gilet presse est censé vous protéger et ne pas vous exposer. Or maintenant, on voit qu'au contraire, le gilet pare-balles marqué presse expose plus qu'il ne protège. Donc certains journalistes finissent finalement par l'enlever. Et puis les drones, effectivement, c'est devenu un extrêmement dangereux pour eux de les utiliser.
Une sorte de guerre des drones entre les drones qui documentent le désastre et les drones qui tuent ceux qui documentent le désastre.
Oui,
c'est une vraie nouveauté, entre guillemets, dans ce genre de guerre.
Oui, je pense que d'ailleurs, il y a parmi tous les traumatismes vécus par sur la bande de Gaza par les Palestiniens, il y a ce son permanent des drones dans le ciel, parfois suivi effectivement de tirs. Et on a aussi voulu poursuivre ce travail-là de ceux qui tentaient de documenter les ravages de la guerre. Et sur le site de Forbidden Stories, on peut retrouver un travail fait avec l'appui de chercheurs qui permet de rentrer en détail dans 2 des quartiers de la bande de Gaza pour voir l'ampleur des destructions sur la base d'images filmées par des drones et reconstituées en 3D.
Vous me disiez, avant qu'on rentre en studio, qu'il n'y aurait pas de projet Gaza 3.
Non, mais je pense qu'il y aura peut-être un projet Gaza 3 ou Gaza 4 ou Gaza 5. C'est certain que...
C'était un espoir.
C'était un espoir.
On n'est plus à documenter ce genre de choses.
Nos projets, on espère toujours ne pas avoir à les reconduire. Malheureusement, on parle d'une guerre qui est interdite aux autres journalistes et donc il faut bien pouvoir s'associer pour travailler ensemble.
Le projet Gaza, la nouvelle enquête coordonnée par Forbidden Stories. Merci Laurent Richard d'être passé à RFI. Merci également à nos 2 grands reporters maison qui ont participé à cette enquête. Samy Bourlifa à Jérusalem. Merci. Nicolas Falaise qui étaient présents dans ce studio. Merci à vous deux. Et on rappelle également ces chiffres effroyables sur l'ampleur du désastre à Gaza. Plus de 50 000 Gazaouis tués depuis le 7 octobre 2023, dont, on l'a dit, environ 170 journalistes.